Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci à nos musiciens, merci à nos chantres, voilà, de nous avoir conduits au travers de ces beaux chants. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos cœurs, ouvrir surtout la parole de Dieu. C'est elle qui est notre boussole, celle qui nous éclaire et qui veut encore nous parler ce matin. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème, un thème qui va tous nous concerner. Je voudrais vous parler de la fidélité de Dieu. S'il y a une vérité concernant Dieu que nous avons tous expérimenté et que nous allons continuer à expérimenter jour après jour, c'est bel et bien la fidélité de Dieu. Quand on parle de la fidélité de Dieu, on ne peut pas se tromper. Alors il faut commencer par le commencement et peut-être se redonner une définition de ce qu'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi ? La fidélité, c'est une régularité à remplir ses engagements par rapport à autrui ou à soi-même. Jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi. La fidélité, c'est aussi un attachement constant à l'égard d'une personne. On va d'ailleurs parler de fidélité conjugale. On va aussi parler d'une fidélité par rapport à bien un ami qui nous est cher. Vous savez, on dit souvent, les amis, on les compte sur les doigts de la main. Et quand il y a une véritable amitié, eh bien, il y a aussi forcément de la fidélité au cœur même de cette amitié. Une personne fidèle est une personne loyale, une personne fiable et digne de confiance. C'est une personne qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. C'est aussi une personne sur laquelle finalement nous pouvons compter et sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et j'entre justement avec vous dans le vif du sujet. Quand on contemple notre Dieu, celui qui est devenu notre Père, on peut le dire et affirmer, Dieu est réellement fidèle. Je vous donne juste quelques versets pour le confirmer, quelques versets parmi tant d'autres. Deutéronome chapitre 32, par exemple, le verset 4, ce sera notre premier verset. Il nous est dit, concernant Dieu, « Il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, autrement dit sans injustice. Il est juste et droit. » De Timothée, chapitre 2, verset 13, nous dit également, « Si nous sommes infidèles, lui, parlant de Dieu bien sûr, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Ce qui veut dire que Dieu est un être sur qui on peut parfaitement compter. On peut pleinement s'appuyer. Vous allez me dire, effectivement, les hommes, c'est autre chose. Oui, c'est vrai, c'est une autre paire de manches. Mais concernant Dieu, il n'y a pas de doute à avoir. C'est pour ça que je dis, c'est un sujet, on ne peut pas se tromper. Dieu est fidèle et on peut pleinement s'appuyer sur lui. D'ailleurs, lorsque Dieu se révéla à un certain Moïse, que nous connaissons tous, Dieu s'est présenté de la manière suivante dans Exode chapitre 34 et le verset 6, ne le cherchez pas. Et l'Éternel passa devant lui, devant donc Moïse, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et riche en fidélité. » Notre Dieu est riche en bonté et il est aussi également riche en fidélité. Et plus que jamais, ce matin, le Seigneur, il est riche en fidélité à l'égard de ceux et de celles qui lui appartiennent. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage ? Qui a l'assurance qu'il appartient à Dieu ? Qui appartient à Dieu ce matin ? Croyez-moi, Dieu est riche en bonté, mais aussi, surtout, en fidélité à votre égard. Et je voudrais juste, simplement, ce matin, je ne serai pas long, vous le confirmer avec quelques preuves. Le premier point que je voudrais partager avec vous, et parlant de la fidélité de Dieu, peut-être nous rappeler que Dieu est fidèle à son alliance. Il a fait une alliance avec chacun d'entre nous. Deutéronome chapitre 7, verset 9, regardez. Deutéronome chapitre 7 et le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Frères et sœurs, vous tous qui vous êtes réellement repentis, convertis à Dieu, vous êtes entrés dans une alliance avec le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et cette alliance, elle est basée sur l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Son sang a coulé. Et, alléluia, par ce sang, nous avons, excusez-moi l'expression, fait un pacte avec le Seigneur. Nous avons signé en bas à droite avec notre Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on rappelle lorsqu'on prend le pain et le vin, dimanche après dimanche. Il ne faut jamais que ça soit une habitude. C'est plus qu'un rituel. C'est profond, c'est spirituel. Dieu nous convie à cette table. Et rappelez-vous, quand il a institué la Sainte Cène pour la première fois, c'était dans le cadre de la Pâque. Il vient, il prend le pain et le rond et il dit ceci, prenez-le en souvenir de mon corps, qui sera brisé pour vous. Et puis à un moment donné, il tend cette coupe. Et en parlant de la coupe, il parle de ce vin qui représente. Lorsqu'on boit le vin, on ne boit pas du sang, vous l'avez compris. Voilà, on n'est pas des cannibales. Mais Jésus dit, quand vous prenez ce vin, rappelez-vous de ce sang. Et il va le désigner comme le sang de l'Alliance. Sang de l'Alliance par lequel nos péchés ont été pardonnés. Sang de l'Alliance par lequel nous nous sommes engagés, je l'ai dit tout à l'heure, pour faire de Dieu notre Sauveur et notre Seigneur et pour le suivre jusqu'au bout. Moi, j'ai fait alliance avec le Seigneur et je veux le suivre jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Mais je sais que je ne suis pas le seul ici en ce matin. C'est comme si le Seigneur avait fait une alliance telle deux époux entre lui et son peuple. Tel de fiancé. J'aime un texte dans l'Ancien Testament, et ce n'est pas qu'un seul que j'aime, mais celui-là particulièrement, regardez ce qu'il est dit concernant Dieu et son peuple. Ésaïe chapitre 54 et le verset 5. Vous voyez, quelle belle image. Et je pense que le prophète a été saisi par le Saint-Esprit pour exprimer de telles paroles. Parlant de Dieu, il dit, car ton Créateur est finalement ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dieu ce matin nous rappelle qu'il est, spirituellement parlant, vous l'avez compris, notre époux. Nous avons fait alliance avec lui. Et cette alliance, il en a même exprimé les termes au travers d'un autre passage aussi que j'aime beaucoup, Osée chapitre 2 et le verset 21 et 22, Osée chapitre 2. Les versets 21 et 22, regardez ce que Dieu dit. Voyez l'image, pour ceux qui êtes mariés comme moi, quand on est passé devant la mairie, à un moment donné, on a pris l'alliance, et puis on l'a fait passer dans le doigt de notre chère et tendre épouse. Elle est où ma femme là? C'est bien comme... Elle est où? Elle est là. Voilà, tu te rappelles de ce moment? Gentiment, tranquillement, doucement, devant tous, devant le public, devant les témoins. Dieu, il fait pareil avec nous. Et alors qu'il est en train de passer cette alliance, je le dis, basée sous l'œuvre de Christ, il exprime ses paroles. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture. Je serai ton fiancé par la grâce et la miséricorde. Et il rajoute, je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Comment nous reconnaissons l'Éternel lorsque nous expérimentons la fidélité de Dieu? Et cette fidélité, elle nous accompagne. Vous êtes heureux ce matin si vous êtes entré dans cette alliance avec Dieu. Vous êtes heureux ce matin parce que votre péché a été pardonné. Parce que tout simplement, vous avez hérité de la vie éternelle. Et mieux encore, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Je crois que chacun devrait parler pour sa part. Mais mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie du Seigneur, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Que Dieu soit béni. Oui, Dieu est fidèle à son alliance. Et croyez-moi, lui, il nous mènera jusqu'au bout du voyage. Autre exemple ou autre preuve de la fidélité de Dieu envers nous, ses enfants, et il faut le rappeler, c'est que Dieu est fidèle aussi lorsque nous traversons l'épreuve ou lorsque nous traversons les tentations. Il y a un texte, peut-être pour vous qui connaissez l'épreuve ce matin. Vous savez, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il y en a qui même ce matin n'ont même pas pu chanter pour cause. Ils n'ont pas à cœur de pouvoir le faire parce qu'ils sont là dans le souci, ils sont là dans l'épreuve. Justement, le verset que nous allons prendre ensemble est pour toi, mon frère, ma sœur, toi, qui connaîtrais des difficultés, des tentations, des épreuves. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13, la vérité suivante, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Aucune tentation, le mot tentation pourrait le remplacer par épreuve, parce que le mot grec qui a été traduit en la version Louis II par tentation, c'est le mot pirasmos. Et pirasmos veut dire non seulement tentation, mais aussi épreuve. Donc on aurait pu bien même lire ce texte comme aucune épreuve. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est, alors aidez-moi, fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, qu'est-ce que Dieu fait, parce qu'il est fidèle, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mon frère, ma sœur, toi qui passes les moments d'épreuve, de difficulté, il faut impérativement ce matin que tu repartes en ressassant cette vérité que Dieu place devant nos yeux ce matin. Il y en a même deux. La première, c'est qu'au travers de ce verset, que tu peux laisser afficher s'il te plaît mon cher frère Pierre, premièrement, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu va veiller que ce que tu es en train de traverser, mon frère, ma sœur, ne soit pas au-delà de tes forces, ne soit pas un surhumain. Et on le voit bien avec l'exemple de celui qui a connu, on peut le dire, eh bien, non seulement l'épreuve, mais aussi la tentation, c'est Job. Job. Finalement, quand on regarde bien le livre de Job, on voit que le Seigneur n'a jamais quitté des yeux son serviteur Job, à aucun moment. Et même quand le diable est venu relever le défi que Dieu lui-même a envoyé, en disant, regarde mon serviteur Job, lui il est intègre, lui c'est un homme qui est droit, qui est fidèle. Le diable a dit, mais tu le bénis, et ceci et cela, mais si je touche assez bien, tu verras. Mais Dieu a répondu, ok, tu peux toucher tous ses biens matériels, mais tu ne touches pas à son corps. Vous voyez, le Seigneur il met les limites. Et dans le chapitre suivant, le chapitre 2, à un moment, le diable il revient à la charge et il a essuyé un premier échec. Et vraisemblablement, il veut en essuyer un deuxième. Quand il relance un défi, il dit, c'est vrai, il t'a tenu, donc il est resté ferme dans son intégrité, en parlant de Job. Mais si je touche à son corps, cette fois-ci, tu verras, il va t'abandonner. Et Dieu lui a dit, tu veux toucher son corps, touche son corps. Par contre, ne fais rien à sa vie. Voyez, qu'est-ce que ces deux chapitres nous disent, les deux premiers chapitres de Job, vous les relirez, c'est que Dieu met toujours un cadre. Il met des limites. Il nous connaît, il nous sonde, il sait qui nous sommes. Et il ne permettra pas qu'aucune épreuve, aucune tentation puisse nous écraser. Et j'ai envie de dire, quelquefois, si nous sommes écrasés par l'épreuve, peut-être parce que nous oublions toutes ces promesses que Dieu nous laisse parce qu'il est fidèle. Et il veut notre bien, il veut que nous soyons victorieux. Et d'ailleurs, on le voit toujours dans ce verset qu'on a lu, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. La Bible nous dit aussi, mais avec la tentation ou l'épreuve, Dieu préparera toujours un moyen d'en sortir. Il y a toujours avec Dieu une issue de secours. Il y a toujours une porte d'espérance. Il y a toujours une porte de victoire, où le Seigneur nous permet, au sortir de l'épreuve, de sortir grandi, de sortir fortifié, de sortir renouvelé, frères et sœurs. Je le dis souvent, soit l'épreuve nous transforme, ou soit elle nous déforme. Mais c'est nous qui choisissons au final. Ce matin, en tout cas mon frère, ma sœur, quelle que soit l'épreuve ou la tentation que tu traverses, Dieu est en train de te rappeler qu'il a tout mis en place pour que tu sortes pleinement victorieux de ton épreuve ou de ta tentation. Tel un bouclier, tel une cuirasse, le Seigneur sera faire rempart entre toi et peut-être même les flèches de l'ennemi. Parce que vous savez, toujours avec une épreuve, il y a forcément à côté de cela une tentation. Vous savez, dans l'épreuve, le diable n'est jamais trop loin. Et il voudrait qu'on baisse les bras, il voudrait qu'on se décourage. Si c'est ça l'évangile, si c'est ça marcher avec le Seigneur, autant retourner dans ce que j'ai connu dans le monde, n'est-ce pas le comportement ou l'attitude qu'a eu le peuple hébreu quand ils sont arrivés dans le désert? C'est ça la vie chrétienne. Mais là-bas, il y avait des légumes, il y avait de la viande. Frère, nous faisons bien de pouvoir suivre le meilleur des maîtres, notre Sauveur et notre Seigneur. Psaume 91, verset 4, nous dit, et c'est une promesse de Dieu, « Il te couvrira de ses plumes. » Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, parlant de la fidélité de Dieu, est un bouclier et une cuirasse. Vous savez, avec la parole de Dieu, il ne faut pas seulement la lire, mais il faut la méditer. Il faut la ressasser dans notre cœur. Seigneur, ce matin, tu m'as dit ça. Alors, dans l'épreuve que je suis en train de traverser, je veux pleinement te faire confiance et m'attendre à toi. Vous savez, quelquefois, c'est juste une question de temps. Le temps que le Seigneur fasse son travail dans nos cœurs pour que nous soyons fortifiés, pour que nous soyons affermis et que nous puissions sortir grandis de l'épreuve dans laquelle eh bien, nous sommes. Oui, Dieu est fidèle lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve et même à la tentation. Autre exemple ou autre preuve de la fidélité de Dieu à notre égard, c'est que Dieu est fidèle dans tout ce qu'il promet. Est-ce que nous pouvons en dire autant ? Lorsque nous promettons les choses, est-ce que nous sommes toujours fidèles à nos promesses ? Et là, c'est un grand silence. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que Dieu, lui, il est fidèle. Un Dieu fidèle. Quand sa bouche dit quelque chose, sa main l'accomplit. Dieu a dit un jour à l'un de ses prophètes, ce que l'on retrouve dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1 et le verset 12. Jérémie chapitre 1 et le verset 12. « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Dieu n'est pas versatile. Il ne dit pas quelque chose un jour, et puis le lendemain, tourner sa veste et puis dire exactement le contraire. Ça, c'est juste impossible. Contrairement à nous, Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut ni tromper, ni mentir. Amen ou pas amen ? Regardez ce texte encore dans la Bible, Nombre chapitre 23 et le verset 19 nous le confirme. Nombre chapitre 23 et le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Et des exemples, on en a tellement. Un jour, Dieu a fait une promesse, pas seulement à un homme, mais à tout le genre humain. Dieu, quand il a vu bien que nos pères, nos premiers parents ont péché, ont failli, en désobéissant à la voix de Dieu qui leur disait de ne pas toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait déjà annoncé que de la postérité de la femme, eh bien quelqu'un allait écraser la tête de Satan. Et il a tenu pour promesse. Bien avant la venue du Seigneur Jésus, parce que Dieu faisait mention de son propre fils qu'il allait envoyer. Des siècles et des siècles avant, Jésus avait déjà annoncé quoi ? Le lieu de naissance de Jésus. Michée chapitre 5, verset 1. Vous prenez des notes et vous le relirez chez vous. Il a aussi indiqué par qui ce sauveur allait naître quand il a parlé de la Vierge, Marie. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Tout ça, c'est 7, 8 siècles avant la venue de Jésus. Et Dieu avait même annoncé quelle serait la mission principale du Seigneur Jésus. On le retrouve dans toujours Ésaïe chapitre 53. Jésus a été blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est venu pour mourir. Alléluia. Essentiellement pour mourir à la croix. Alléluia pour nous. Mais aussi ressusciter le troisième jour après sa mort, que son nom seul soit béni. Dieu a fait aussi des promesses à des personnes en particulier, à des hommes, à des femmes. Juste un exemple, une femme, une certaine Sarah, qui au départ s'appelait Saraï. Qui est Sarah ? C'est ni plus ni moins l'épouse d'Abraham. Sauf que Sarah avait un problème. Quel était son problème ? Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Voyant le temps passer, elle était arrivée à 90 ans. Et à ce moment-là, Dieu lui annonce un an avant qu'elle allait enfanter un fils de son sein. Elle n'allait pas adopter. Enfanter un fils de son sein, c'est la nuance. Et Dieu a tenu parole. Sur le coup, quand elle a entendu ça, elle a ri. Non seulement je suis avancé, Seigneur, mais en plus de ça, tu sais très bien que je suis stérile. Mais quand Dieu annonce une promesse, il la tient toujours. Et on voit, concernant Sarah, ce qu'il en est, quand on lit Hébreux chapitre 11 et le verset 11. La Bible nous dit concernant Sarah, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Pourquoi ? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Finalement, une autre définition de la foi, peut-être celle que nous sommes en train de lire. croire, c'est tout simplement, eh bien, croire en la fidélité de celui qui fait les promesses. Et celui qui fait les promesses, c'est Dieu lui-même. Et parce qu'il est fidèle, il ne peut pas se tromper. C'est juste, là aussi, pareil, une question de temps. Parce que peut-être quelqu'un pourrait me dire, mais ouais, mais ce matin, tiens, je me rappelle cette promesse que Dieu m'a donnée, et jusqu'à maintenant, je ne la vois pas venir. Eh bien, tout comme Sarah, mon frère, ma sœur, crois jusqu'au bout en la fidélité de Dieu. Tout comme Sarah. Eh bien, mets ta confiance en celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse, c'est un Dieu qui est fidèle. Et si la promesse tarde, attends-la. Parce que le Seigneur, quand il donne au bon moment. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Au contraire, le diable voudrait que tu te décourages, peut-être même avant l'heure. Et souvent, nous, on a l'art et la manière de nous décourager, juste peut-être même quelquefois la veille, du beau moment, du moment où Dieu allait enfin nous accorder la victoire. Mon frère, ma sœur, persévère. Dieu t'a donné une promesse, tu en es parfaitement sûr. Eh bien, elle ne peut pas en être autrement. Dieu va faire en sorte qu'elle puisse s'accomplir. Et permettez-moi peut-être de terminer. On a vu que Dieu, il est effectivement fidèle. Il est fidèle, donc on vient de le voir, à sa parole. Il est fidèle, lorsque nous traversons les épreuves. Il est fidèle, par rapport à son alliance. Je voudrais terminer en disant, parce que Dieu est fidèle, ce qu'il a commencé en nous, qu'est-ce qu'il fera? Il l'achèvera. Vous savez, la Bible dit, rien d'impur, rien de souillé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Ça c'est sûr, c'est indéniable. Il n'y a aucun péché qui pourra pénétrer le royaume des cieux. Ça c'est clair. Alors c'est vrai qu'en parallèle à ça, quand on se regarde, on voit qu'il y a encore du travail. Vous savez qu'on est spirituellement encore en chantier, Bon, à moins qu'il y ait quelqu'un de parfait. Qui est parfait? Levez la main, s'il vous plaît. J'ai beau regarder, et je pense que ma main non plus n'est pas levée. Nous sommes tellement imparfaits. Pensons aux domaines de notre être qui ont besoin d'être sanctifiés. Peut-être notre caractère a besoin d'être sanctifié. Peut-être nous sommes conscients de certaines faiblesses. Peut-être de mauvaises habitudes ou mauvaises attitudes que nous pouvons encore avoir. Et nous sommes attristés par cela. L'apôtre Paul lui-même a dit, mais qui me délivrera de... justement de cette vieille nature, de ce péché qui colle à notre peau. Notre corps a été entaché par cette nature pécheresse. C'est pour ça que la Bible nous parle d'être régénéré, de ressusciter avec un corps glorieux. Tant que nous sommes ici-bas, nous aurons besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, le Seigneur, il se propose de pouvoir achever cette œuvre par la sanctification. Il se propose lui-même de pouvoir opérer pleinement cette transformation dans notre vie pour que lorsque Christ reviendra, nous soyons fin prêts. Regardez ce qu'il est dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, c'est un premier verset. Paul qui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et s'il était persuadé comme cela, c'est parce qu'il connaissait, il a expérimenté la fidélité de Dieu. Paul aussi va dire autre part, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, on en a bientôt terminé. Il va dire la chose suivante, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est son œuvre, c'est son travail. N'essayons pas par nos propres forces ou même notre propre volonté de nous transformer, de nous changer. C'est l'œuvre du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque part, le Seigneur, il veut, oui, tout entier et lui-même nous sanctifier. Mais il aimerait le faire pleinement avec notre participation, avec notre approbation, avec quelque part notre coopération. Parce que même s'il nous demande de faire 1%, lui se propose de pouvoir faire les 99 autres pourcents. Et l'apôtre Paul rajoute, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen et amen. Vous savez, le Seigneur, il est bientôt sur les nuées. Il reviendra prendre son Église. Et croyez-moi, pour être fin prêt finalement, nous avons juste besoin de la fidélité de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'action du Saint-Esprit, mais on a aussi, surtout, besoin de la fidélité de Dieu. Et parce que notre Dieu est fidèle, celui qui nous a appelés, celui qui a commencé cette œuvre, eh bien, il l'achèvera pour que, si Christ a le temps de revenir, nous puissions décoller. Vous savez, ça va se passer ainsi. À un moment donné, peut-être ce sera pendant un moment de culte. Peut-être que je serai en train de prêcher à ce moment-là. Le Seigneur viendra sous les nuées et en un instant, la Bible dit, en un clin d'œil, l'Église, les chrétiens nés de nouveau, les véritables chrétiens partiront, décolleront. Et soyons honnêtes, même dans notre belle Église que nous aimons beaucoup, plaise à Dieu que nous partons tous, mais seuls les véritables chrétiens, seuls ceux et celles qui se seront en retour attachés fidèlement au Seigneur Jésus pourront décoller. Et ce sera tout drôle. Le micro tombera, je vous laisserai mes notes et la parole de Dieu, mais vous ne trouverez plus Joël. Hein. Les linges, gratos, je vous les laisse gratos. Mais je partirai et je sais que je ne serai pas le seul. Plusieurs, alléluia, gloire à Dieu. Je dis souvent, le lieu de culte, c'est juste un bâtiment. On le sait que c'est juste un bâtiment, c'est un lieu public. On n'a pas le droit, juridiquement parlant, eh bien d'empêcher quelqu'un de pouvoir entrer. On a le droit, moi en tant que ministre du culte, de gérer pour qu'il y ait le bon ordre, ça c'est clair. Mais c'est un lieu public, et il y a toutes sortes de personnes. Quand le peuple hébreu est sorti du pays d'Égypte, il y a, la Bible dit, des millions de personnes, les commentateurs sont d'accord, vous dites, il y a des millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait le peuple hébreu, mais il y avait aussi toutes sortes d'Égyptiens, un ramassis de personnes qui ont voulu suivre le peuple hébreu, parce qu'ils ont dit, avec tous les 10 plaies qu'on a vues en Égypte, mais ce Dieu, il est grand. Mais est-ce qu'ils étaient convertis pour autant? Ça, c'est une autre histoire. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Vous savez, on peut montrer peut-être une apparence, etc. Dieu connaît les siens. Et que celui, alléluia, qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le prophète Jérémie, je dis en conclusion, le prophète Jérémie a dit à juste titre, en parlant de la fidélité de Dieu, eh bien, oh que ta fidélité est grande. Et nous aussi, on peut dire, oh Seigneur, que ta fidélité est grande. J'ai envie de dire avec vous que la fidélité de Dieu est sans faille. Mais je voudrais nous laisser juste peut-être cette question qui devrait tous nous interpeller ce matin. Certes, la fidélité de Dieu, elle est sans faille, elle est parfaite, elle est grande et immensément grande. Mais qu'en est-il de notre fidélité à son égard? Frères et sœurs, sommes-nous fidèles à sa personne? Sommes-nous fidèles à sa parole? Je vais la formuler autrement. Dieu peut-il réellement compter sur nous? Parce que si un jour il nous a attirés à lui, si un jour il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions en retour, l'Église, je parle de l'Église de Christ, ou chacun d'entre nous en particulier, être sa bouche, sa voix. Il y a une mission qui va au-delà de tout ce que nous pourrions faire ici-bas sur cette terre. Celle de pouvoir proclamer le beau message de l'Évangile, celle de pouvoir illuminer, éclairer les cœurs qui sont loin de Dieu. Jésus lui-même s'est présenté comme étant la lumière. Mais sommes-nous fidèles à cette lumière ce matin? On a besoin de s'examiner ce matin. On a besoin de dire, Seigneur, de la même manière que tu es fidèle à mon égard, je veux l'être jour après jour. Frères et sœurs, tout ce qui se passe sur cette terre, ce n'est que secondaire. C'est même tertiaire, c'est même tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est les choses durables. C'est la vie éternelle. Et nous sommes appelés à pouvoir avoir cette vision. Nous sommes que étrangers voyageurs sous cette terre. Et un jour, nous quitterons cette terre pour vivre éternellement dans, alléluia, cette cité de gloire que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. On peut prier le Seigneur, frères et sœurs, ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Et avec mes frères et mes sœurs, te dire un grand merci pour ta fidélité. Tu as dit que dans les derniers temps, il y aura l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Seigneur, même à un moment donné, Seigneur, plusieurs t'ont abandonné. Et tu t'es même retourné vers, Seigneur, tes proches disciples en leur disant, et vous aussi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Seigneur, nous voudrions comprendre que notre marche, c'est vrai, c'est une marche de fidélité à ton égard. Nous voudrions, Seigneur, comprendre que cette marche est aussi un combat. Toi-même, tu l'as dit par la bouche de ton Fils Jésus à celui qui sera vainqueur. À tellement de reprises, tu l'as dit. Seigneur, ce matin, nous voudrions être vainqueurs. Et être vainqueur, c'est être fidèle à ta personne, fidèle à qui tu es. Seigneur, croire en la fidélité de celui qui a fait les promesses. Oui, tu nous as promis, Seigneur, une maison là-haut. Et Seigneur, je sais que tu ne peux pas mentir parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Merci pour ta fidélité par rapport à ton alliance. Merci pour ta fidélité de chaque jour. Jamais tu m'as fait défaut. Je le dis devant mes frères et mes sœurs, jamais tu m'as fait défaut. Mon âme t'appartient, mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient. Je veux vivre davantage pour toi. Pourtant, Seigneur, comme mes frères et mes sœurs, j'ai conscience, Seigneur, Père mon Dieu, de mes faiblesses. J'ai conscience encore de tout ce qu'il reste encore à faire dans ma vie. Et c'est là, nous voudrions regarder vers toi et te faire pleinement confiance. Seigneur, ce que tu as commencé, oui, pleinement, achève-le dans nos vies, afin que nous soyons agréables à toi. Pardonne-nous de nos égarements, pardonne-nous de nos péchés, donne-nous à nous recentrer, donne-nous, Seigneur Père, à mettre la priorité des priorités, à pouvoir rester attaché à toi. Seigneur, je t'en supplie, Père éternel, donne-nous à être intelligents sur le plan spirituel. Bénis peut-être les personnes qui viendraient pour là ou les premières fois, ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Seigneur, qu'ils viennent et qu'ils cherchent à te connaître, celui qui te cherche de tout son cœur. Toi, tu te laisses trouver par cette personne. À toi revient toute la gloire. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit...